Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+. Si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire, des mots pour le dire, méandre de l'amour, Eros et Agapé, livre écrit par Michel Théron et paru aux éditions Dervy. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Alors, méandre de l'amour, c'est le cas de le dire, amour et sacrifice, c'était le paragraphe, le chapitre que nous avons abordé la semaine dernière. Nous sommes restés en suspens parce que accoler les deux, amour et sacrifice, ou se sacrifier par amour, ou est-ce que le sacrifice exige de l'amour? C'était tout le débat que nous avions eu la semaine dernière, et on s'était arrêté à mi-chemin sur la symbolique d'une phrase dite par Jésus et que nous allons reprendre aujourd'hui.
Voilà, il y en a plusieurs, hein, mais dans l'évangile de Jean, je crois, il y a « Il n'est pas de plus grand amour, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime ». Donc là, nous lions effectivement nos deux notions, l'amour et le sacrifice de sa vie. J'avais souligné que le texte original porte le verbe « titémi » et non pas « didomi », c'est-à-dire exposer sa vie, mettre sa vie en jeu, et non pas forcément de la donner, hein. Mais je pense à une deuxième phrase de l'évangile selon Jean. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est au chapitre 12, verset 24. Alors, comment voir cette mort, hein? Est-ce qu'il s'agit effectivement de mourir, y compris physiquement, hein? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas voir la mort comme symbolique? Je crois que c'est possible, hein? Mourir et devenir, c'est devenir autre chose. Et cette mort, elle peut être vue comme une mort, alors je dirais, à la tyrannie du petit ego, hein, qui voit tout en fonction de lui-même, de ses petites supputations et de ses calculs les plus étroits, hein. Donc la plupart du temps, nous ramenons tout à nous-mêmes, hein. C'est ce que j'appelle tout à l'ego, hein, voilà. Alors, mourir à soi, c'est renaître à ce que Jung appelait le « soi », hein, avec un S majuscule, c'est-à-dire la perception de l'ensemble inépuisable des scénarios et des postures de vie qui sont possibles. En effet, le « moi » est naturellement insulaire. Imaginez le « moi » comme une petite île perdue dans un grand océan. Mais l'île doit se dissoudre dans l'océan, hein. Il faut passer de l'île à l'environnement, en quelque sorte. Alors bien sûr, la phrase johannique « si le grain ne meurt » a été prise littéralement, et on y a vu l'évocation d'une mort non pas symbolique, mais d'une mort effective. Et d'ailleurs, elle a été insérée dans un contexte où Jésus doit s'acheminer vers sa passion, se préparer à celle-ci. Et donc par ce fait même, elle a été infléchie dans le sens banalement sacrificiel d'un Jésus candidat au martyr, en quelque sorte. Mais je pense que l'on peut garder quand même le sens symbolique, qui serait plutôt peut-être un sens ésotérique, pour l'opposer au sens banal, le sens exotérique. Et le même problème, on l'a vu dans une émission précédente, se pose pour la fameuse teshuva hébraïque et la métanoïa grecque. Est-ce que c'est un retour à Dieu, dans le giron de Dieu, ou simplement un retour à soi? Et là aussi, dans la seconde hypothèse, un retour au soi, S majuscule, en soi. Goethe disait « meurs et deviens ». C'est une phrase que l'on médite souvent dans la franc-maçonnerie, hein. Alors je pense qu'il faut garder ici, pour se mourir, le sens symbolique de mort à soi, qui est un sens très éclairant pour notre propos. Alors, dans toute relation humaine, et là je parle de notre sujet, et la relation amoureuse ne fait pas exception à cela, il faut essayer d'entrer dans les raisons de l'autre, de voir les choses de son point de vue, d'abandonner la vision partielle et partiale où nous condamne notre petit ego. Platon disait « le dialecticien est celui qui voit la totalité, hein, », synoptikos au dialecticos. C'est dans la République, au chapitre, au livre 7. Hein. Donc, je pense aussi à ce que disait Hegel, hein, « le vrai, c'est le tout, hein. ». Et je pense enfin à ce que disait Kafka, un de nos grands prophètes, poètes, écrivains, prophètes, hein, Kafka disait « Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde, c'est-à-dire viens au secours du monde ». Donc le seul sacrifice, pour revenir à mon thème, que l'on peut conseiller, est celui de la vision égocentrique. Arrêtons cette vision qui ramène tout à soi. Bien sûr, cette vision égocentrique est naturelle pour chacun. Elle flatte son narcissisme. Mais il me semble qu'il faut la surmonter. Dans la vie, en effet, on ne sait jamais. Hein, jamais on ne sait. Hein. Donc, essayons. Lorsque nous avons une relation amoureuse, de voir ce que pense l'autre, les raisons de l'autre, hein, de voir justement au-delà de notre petit moi. Et là, je pense que vous en serez d'accord, Edouard, hein, que c'est une bonne, méthode, hein, d'approche. Hein. Nous ne voyons qu'un seul côté des choses, nous n'avons qu'une partie, hein, mais l'autre voit peut-être et sûrement autre chose. Hein. Alors, pour cela, il faut savoir écouter. Hein. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables d'écoute, hein, Redouane, je pense pas. Hein. Beaucoup de gens parlent, s'étourdissent de paroles, de leur propre discours, de leur propre parole, mais ils n'ont pas la capacité d'écouter. Et les gens silencieux, ordinairement, eux, savent mieux écouter. Vous voyez, hein. Donc, c'est très, très important, hein, d'écouter l'autre et d'essayer de voir les choses comme il les voit. Donc, vous savez, de la réalité, nous n'avons que des versions. Hein. Il y a la version que nous avons, nous, la version qu'a l'autre. Hein. Donc, il faut essayer de les embrasser, toutes ces versions.
C'est un peu comme le père prodigue, pour reprendre une image. C'est à la fois... Par amour pour cet enfant, il le laisse partir, et par amour pour c'est toujours le même enfant, il le fait revenir à la vie. Et effectivement, et là, il s'agit plus de sacrifice, hein, de mourir, mais revenir à la vie.
Absolument. En plus, vous venez de dire le père prodigue, pourquoi pas? On dit d'habitude l'enfant prodigue.
Oui, mais moi, je trouve que c'est le père qui est prodigue.
Vous avez raison, et c'est très subtil et très fin ce que vous dites. Effectivement, le père est prodigue de son amour, hein, d'abord. Hein. Donc, il y a deux prodigues, oui. le fils et le père. Alors, je terminerai cette réflexion sur le sacrifice en développant un tout petit peu un scénario que beaucoup de gens vivent. Le sacrifice, parfois, est un comportement compréhensible, mais il n'est pas pertinent pour s'attacher à un être dont on pense qu'il exige ce sacrifice. Mais on pense cela souvent à tort. Et là encore, on fonctionne par projection. On se dit, je veux m'attacher tel être que j'aime, je vais projeter sur lui telle attente que je m'imagine présente en lui, dont j'imagine qu'elle est en lui, hein, que je pense qu'il a en quelque sorte. Hein. Et cela est fréquent chez les êtres qui ont manqué d'amour dans leur enfance ou dans leur passé. Comme ils n'ont pas été assez aimés, ils pensent qu'ils peuvent s'attacher à un être, hein, par le dévouement qu'ils lui manifestent. Hein. Mais je ne pense pas que cette tactique réussisse. La réussite n'est pas garantie. En effet, on peut penser à l'échec où peut mener celui ou celle qui l'a mise en œuvre. D'abord, il commencera à force de se sacrifier, il ou elle, hein, de ressentir un manque de respect de soi-même, manque d'estime de soi. Et finalement, quand la frustration est trop grande, quand ce mépris de soi est trop grand, finalement, le candidat initial au sacrifice sera amené à rompre unilatéralement une relation qui, si elle avait été mieux gérée, aurait pu au contraire être tout à fait féconde. Je crois que cela se voit souvent dans la vie, hein. Un être qui a manqué d'amour, qui a une grande soif d'amour, espère que le partenaire qu'il a choisi, hein, va être sensible au sacrifice que lui-même il va consentir. Mais cela n'est pas, je pense, une bonne tactique, hein, Redouane. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est fréquent. Parce qu'à trop se sacrifier, après, à trop s'humilier, on manque de respect de soi, non? Vous croyez pas?
Disons, il n'y a plus de spontanéité. Quand il y a du calcul, en fait, on prépare un piège à l'autre. Il est sentimental dans le cas présent, mais oui, il y a une sorte d'hold-up qui se fait.
Ah oui, oui, oui. Je suis de votre avis. Une instrumentalisation, oui, effectivement. Il y a certaines mères, par exemple, qui sont tellement possessives, qui disent à leur enfant « Je me suis sacrifié pour toi, songe à tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. » et finalement, c'est très égocentrique, cette attitude. Hein. Parfois,
C'est très culpabilisant. Moi qui avais confiance en toi.
Voilà, songe que je me suis saigné aux quatre veines, comme on dit trivialement, pour toi, songe à tout ce que j'ai fait pour toi. Eh bien, je ne pense pas que l'autre, finalement, soit heureux d'entendre ces paroles. Il préférerait voir en face de lui quelqu'un d'heureux, d'épanoui, plutôt que quelqu'un de meurtri et de frustré par tous les sacrifices qu'il a consentis. Alors maintenant, nous abordons un deuxième volet de cette émission, hein, qui est Amour et caractère. Je rappelle que nous sommes dans la troisième partie de mon livre, hein, qui concerne les conditions à réaliser éventuellement pour qu'une relation amoureuse soit féconde. Hein. Cette troisième partie s'intitule « Du bon usage de l'amour ». Alors, amour et caractère. Le caractère de chacun, il me semble, c'est son destin. Hein. Les anciens grecs disaient « ethos anthropodaimon », c'est-à-dire, pour l'homme, anthropos, c'est son ethos, sa nature, son caractère, son tempérament, qui est son daimon, son démon, son destin. Hein, voilà. Et je ne suis pas sûr du tout que Sartre ait raison quand il dit que l'on se construit librement par ses actions. Hein. Vous savez que c'est le fondement de la philosophie existentialiste de Sartre, la liberté toute puissante. Hein. Je suis ce que j'arrive à créer, hein, en moi. Hein. Bon, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Il me semble que l'on se révèle à soi-même dans les actions que l'on fait, plutôt qu'on ne se forge ou que l'on ne se crée. A priori, chacun a de soi une très haute idée, mais confronté à telle circonstance, par sa propre conduite, il va révéler aux autres, bien sûr, ce qu'il est, et à lui-même ce qu'il est profondément. Je crois qu'il y a une phrase évangélique, Redouane, qui dit « L'homme de bien, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et l'homme de mal, du mauvais trésor de son cœur, tire le mal. » Il me semble que c'est ça. Donc, il n'y a pas de liberté, en quelque sorte, puisqu'on nous dit que tout arbre se reconnaît d'après ses fruits. Hein. Donc, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre qui porte des mauvais fruits, on le reconnaît comme étant un mauvais arbre parce qu'il porte de mauvais fruits, il sera coupé, jeté au feu. Ça fait peur, ça, un peu. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de liberté. Non, la philosophie sartrienne, la philosophie existentialiste, s'oppose à toute une tradition très ancienne, qui prétend que l'acte nous révèle et ne nous crée pas, révèle notre nature. Hein. Schopenhauer le disait, hein, en latin il disait « operari sequitur esse », c'est-à-dire « l'action suit l'être hein, », dans le traité du libre arbitre, vous voyez. Donc il n'y a pas de vraie liberté. Sartre disait « l'existence précède l'essence », mais la tradition antérieure disait non, le contraire, hein, il y a d'abord l'essence et puis l'existence qui en dérive. Alors, il y a apparemment du destinal dans notre caractère ou dans notre tempérament, et au fur et à mesure que nous le découvrons, ce destinal, et que nous le voyons tel qu'il est, c'est-à-dire dans le même rapport avec notre conduite que celui du ressort, avec le mouvement des aiguilles d'une montre, par exemple, pour prendre une métaphore, nous pouvons souffrir de ce que nous sommes, de ce que nous avons vu en nous, ce qui a été révélé par notre conduite, car nous voudrions peut-être être tout autre. Par exemple, si nous nous découvrons introvertis et rêveurs, et poussés peut-être à la mélancolie, nous pouvons désirer être autrement. Et je rappelle alors que introversion et extraversion sont deux grandes tendances ou deux grands tropismes de l'être que Jung a analysés dans ses types psychologiques, vous voyez. Alors ce sont des notions relatives, hein, parce qu'un extraverti, avec un plus extraverti que lui, aura un comportement d'introverti, et réciproquement. Hein, c'est des notions relatives, mais quand même, il y a une tendance dominante dans chaque être. Alors, si je me découvre introverti, je peux en souffrir. Alors, qui est-ce que je vais prendre comme partenaire? Qui est-ce que je vais choisir? Dans le choix du partenaire. Nous voudrions peut-être, pour compenser la direction où nous pousse notre pôle que nous avons ainsi découvert, en choisir un qui ait le caractère le plus opposé au nôtre. Et alors beaucoup feront ce choix. Le timide ira vers le hardi, celui qui est réservé ira vers celui qui est exubérant, celui qui est solitaire ira vers celui qui est socialisé, etc., etc. Et ce choix est lié à la souffrance intérieure de celui qui se sent mal dans sa peau. Il se comprend aisément, il se comprend. On souffre de ce que l'on est, on se dit « je vais m'équilibrer » en choisissant comme partenaire quelqu'un qui a un tempérament totalement opposé au mien. Mais est-ce que c'est une bonne tactique? Est-ce que cela marche, entre guillemets, comme on dit trivialement? J'en doute beaucoup, parce qu'il me semble que, à l'expérience, un tel choix peut se révéler catastrophique. Parce que dans la durée, un couple se base sur une durée, il vit dans une durée. Hein. Que pouvons-nous partager avec quelqu'un qui n'a rien de commun avec nous? Si je me trouve rêveur, qu'est-ce que j'ai à faire avec un être qui serait hyperactif, que je vais lasser par mes moments de contemplation immobile, et dont je me lasserai moi-même du fait de l'incapacité qu'il a, l'autre, à me comprendre, et l'impatience qu'il éprouve aussi à me supporter, vous voyez? Alors, commencer par un désir de compensation, compréhensible mais irréfléchi, à mon avis, et signe d'immaturité, la relation s'achèvera par une incompréhension et une ignorance mutuelle. Alors, je crois qu'il faut d'abord que je m'accepte tel que je suis, que je me réunisse d'abord à moi-même, et ensuite seulement je pourrai penser à une relation avec un autre que moi. Ce centrage obligatoire est le préalable à toute ouverture vers l'autre. Je l'ai déjà dit, hein. J'avais déjà dit que j'avais eu un contradicteur qui me disait « la rencontre de l'autre a l'énorme avantage de me décentrer ». J'ai bien réfléchi et je me suis dit « mais non, il faut d'abord que je sois centré, hein, et ensuite, justement, la relation avec l'autre sera féconde ». Alors, je ne sais pas votre avis, Rudan, sur ce que je viens de dire. Il me semble que prendre l'opposé de soi, hein, supposer qu'on le choisisse librement, hein, bien sûr, hein, n'est peut-être pas une bonne tactique. Je ne sais pas ce que tactique ne convient pas, bien sûr, mais
la complémentarité. Est-ce qu'on est dans la complémentarité? Je ne sais pas. Ces ingrédients dépendent de, je pense, de la patience et de l'amour que les partenaires ont l'un pour l'autre. Parce que ce qui, au départ, peut nous paraître amusant chez l'autre, qui nous fait sourire, à force peut devenir pénible.
Ah oui.
Être un fardeau dans la relation. Donc, voilà, l'autre est toujours en retard. Au départ, ça nous fait rire, ça fait partie de son trait de caractère. Mais, voilà, dans la longueur, ah oui. comment est-ce qu'on le vit?
Je pense à ce que dit Flaubert dans Madame Bovary. Emma se lasse très vite des manies de son mari. Hein. Alors, elle remarque qu'il a des doigts carrés, qu'il est long à manger, alors qu'elle est anorexique. Hein. Alors, Charles était long à manger, et elle s'amusait avec son couteau de faire des raies sur la table, sur la toile cirée, sur la table familiale, si vous voulez. Donc, elle en vient à lui reprocher, non pas tellement ses actions même, mais son être même, ce qu'il est, vous voyez, les moindres détails lui répugnent. Donc là, je suis d'accord avec vous, il faut d'abord bien réfléchir avant de penser à cette complémentarité. Et alors, pour illustrer cette partie, j'ai choisi une chanson connue de Georges Brassens où l'on voit la différence entre les deux partenaires dans la relation.